Manger Vrai, première radio 100% dédiée à l'alimentation.
On vous en parle, c'est votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité et cette semaine nous nous sommes intéressés plus particulièrement à l'éducation à donner à nos enfants en matière d'alimentation et notamment avec le projet nomade d'Olivier Chaput, président de l'association Les Enfants Cuisine. De son côté, Ismaël Menot, directeur de l'école de Paris des métiers de la table, nous donnera son sentiment d'inclure ou non l'alimentation au programme scolaire. Il réagit à une tribune publiée dans un hebdomadaire par des enseignants qui ne veulent pas dispenser des cours d'éducation à l'alimentation. L'invitée du magazine, Véronique Duguay, elle a lancé les ateliers de goûtologie, histoire de nous faire faire un voyage sensoriel et gustatif à la conquête de nos madeleines de Proust. Tout un programme. C'est notre premier rendez-vous avec la chronique Conso. Cette semaine, nous allons vous parler de sel en cuisine avec le chef Dan Bessoudo du restaurant étoilé Danbé, situé dans les Bouches-du-Rhône. À quelques jours des fêtes de fin d'année, James Monnier, responsable du groupement des producteurs d'oies d'Anjou IGP et Label Rouge, nous éclaire sur l'oie, une volaille moins connue des consommateurs que celle venue de Bresse et pourtant aussi savoureuse dans nos assiettes. Et puis en fin de magazine, nous nous retrouverons Alain Moreno, il est allé à la rencontre de Javier, un doux rêveur qui a lancé Luma's Cake, élu premier prix de la catégorie professionnelle œuvre d'art au Salon Shugart Paris 2018, avec une création tout à fait exceptionnelle sur le thème de la Vénus de Botticelli, entièrement peinte à la main.
Une info, un message, un coup de cœur, retrouvez Manger Vrai sur Facebook.
Le blé, la moisson, ça me rappelle mon enfance.
Le pain, ça m'évoque les goûters chez ma grand-mère.
Mettre les mains dans la farine pour la pétrir, c'est toujours une bonne sensation en fait.
Une bonne tartine de pain bien croustillante avec un morceau de beurre dessus.
Blé, farine, pain, jour après jour, le savoir-faire et la passion des agriculteurs, meuniers, boulangers offrent un plaisir qui nous est cher et fait croustiller notre quotidien, le pain.
Passion céréales, une culture à partager.
Pour votre santé, bougez plus.
On vous en parle. Henri Salamone.
Il y a 10 ans, Olivier Chaput a créé l'association Les Enfants Cuisine avec le rêve que tous les enfants aient accès à une alimentation de qualité. Un rêve certes un peu fou où les générations futures seraient toutes sur un même pied d'égalité. Aujourd'hui, plus de 12 000 enfants ont pu bénéficier des actions mises en place par l'association. Et face à ce défi d'éduquer ces enfants à une meilleure alimentation, Olivier Chaput a décidé d'aller beaucoup plus loin en les sensibilisant au plaisir de cuisiner, de goûter, de partager, et ce, directement dans leur quartier grâce à un camion cuisine. Un moyen d'aller dans les zones les plus isolées, les quartiers précaires, et ainsi partager avec tous les enfants sans exclusion aucune les clés d'une alimentation saine et adaptée. On l'écoute.
L'autre chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est les familles en situation de précarité et complètement isolées. Il y en a de plus en plus. Il n'y a pas vraiment de choses qui sont faites, on va dire, sur de l'action. Il y a beaucoup de paroles qui sont mises en place, mais sur l'action, quand on le vit au quotidien, je peux vous assurer que la précarité, c'est compliqué. Donc du coup, il faut qu'on aille vraiment, vraiment à leur porte. Et la meilleure façon pour nous, c'était d'avoir un camion. Donc on a créé un camion cuisine grâce à une très grosse subvention de l'Île-de-France, ça c'est sûr. Et la Seine-et-Marne, et c'est vrai que le camion est parti en construction. On va avoir bien évidemment des frais de fonctionnement, il va falloir encore aller chercher des fonds, ça c'est évident. Mais plus on va pouvoir faire de kilomètres, plus on va pouvoir aller à la porte des personnes, sur les parkings, même de supermarchés, des hôpitaux et tout ça, plus on va aller au contact des enfants, plus on pourra leur transmettre. Donc voilà, le grand chantier 2022, c'est que ce camion traverse l'Île-de-France, toute la région et aussi la France par la suite, pour pouvoir aller à la rencontre de tous ces publics-là.
Vous pouvez aider l'association Les Enfants Cuisine en participant au projet sur la plateforme Bluebee, plateforme de crowdfunding pour l'agroécologie. Enfin, sachez qu'il ne reste que 30 jours pour atteindre l'objectif fixé, à savoir réunir la somme minimale de 9000 euros. Et vous retrouverez tous les liens utiles sur notre site www.manger-vrai.net. L'obésité est devenue un problème de santé publique majeur dans les pays riches. Or, l'éducation à l'alimentation et à la nutrition est quasi inexistante dans les écoles. Pourtant, les collèges et les lycées, l'ensemble de la communauté éducative peut prendre part à l'éducation à l'alimentation et au goût. De nombreux projets peuvent également impliquer directement ou indirectement les familles des élèves. L'éducation à l'alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire peuvent être des sujets abordés au sein des espaces parents. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il est difficile de mettre en place un programme dédié à l'alimentation dans les écoles et que certains enseignants sont peu enclins à y réfléchir, comme en témoigne la Tribune, publiée récemment dans un hebdomadaire. La réaction d'Ismaël Lemeneau, directeur de l'école de Paris des métiers de la table.
Oui, alors, je ne connais pas tout le dossier, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'éducation commence dès le départ. Hein. Et que si, effectivement, maintenant, on n'a plus les parents qui transmettent, ou la grand-mère, ou l'arrière-grand-mère qui transmettaient, effectivement, les bons plats, ce qui est moins en moins courant, il est certain que, surtout avec cette dimension écologique, responsabilité sociale, il est important d'intégrer cela parce que prendre soin du produit, c'est prendre soin aussi de la terre. C'est prendre soin d'un certain nombre de dimensions en fait, qui sont importantes. Et quand on met en fait, chez l'enfant cette notion de « je vais faire attention à mon alimentation, à mon produit, je fais forcément attention d'où vient ce produit ». Et je pense qu'actuellement, avec tout ce qui se passe et tous les enjeux actuellement environnementaux, je pense qu'il y a une dimension aussi qui est importante à ce niveau-là.
Enfin, pour être complet, sachez que de son côté, Marlène Dreyfus, psychologue clinicienne au service de gastro-entérologie à l'hôpital Armand-Trousseau à Paris, estime pour sa part que si c'est d'envisager d'enseigner l'alimentation au même titre que l'acquisition de la lecture, de l'écriture, des mathématiques ou de l'histoire, la réponse est catégorique, c'est non. Si c'est offrir à l'enfant les meilleures conditions, le meilleur cadre pour qu'il puisse développer ses richesses et ses capacités, sa réponse est oui. Enfin, ce que nous avons encore retenu dans l'actualité, près de la moitié de la population mondiale souffre d'une mauvaise nutrition, avec des conséquences néfastes pour la santé mais aussi pour la planète. C'est ce que souligne un rapport publié le 23 novembre dernier. Selon ce rapport annuel intitulé Global Nutrition Report, dont les données viennent d'organisations comme l'ONU, la FAO, l'OMS ou l'UNICEF, 48% des humains mangent actuellement trop ou trop peu. Au rythme actuel, le monde n'atteindra pas 8 des 9 objectifs nutritionnels fixés par l'Organisation mondiale de la santé pour 2025. À 24 ans seulement, Naïs Piroulet, la cadette de la compétition, remporte haut la main le Bocuse d'Or France 2021. Elle devient ainsi la première femme à représenter la France dans l'histoire de la compétition. Un tournant majeur dans l'histoire du concours et un symbole fort pour la cuisine française, à l'image des mutations dans le monde de la gastronomie. Direction maintenant le Bocuse d'Or Europe 2022 à Budapest qui se déroulera les 23 et 24 mars 2022 pendant le CIRA Budapest.
Une info, un message, un coup de cœur, retrouvez Mangez Vrai sur Facebook.
Avant de retrouver l'invité du magazine Véronique Duguet, fondatrice de l'atelier de goûtologie, je vous propose que l'on écoute le groupe Breakfast avec ce titre « Au petit déjeuner ».
Petit déjeuner, je mange des céréales avec du lait au petit déjeuner. Au petit déjeuner, elle mange des tartines, elle boit du jus d'orange au petit déjeuner. Les croissants, c'est délicieux, mais les croissants, on n'en mange que le dimanche. Il mange un yaourt, une banane et deux biscuits au petit déjeuner. Au petit déjeuner, nous mangeons des œufs et du jambon au petit déjeuner. Les croissants, c'est délicieux, mais les croissants, on n'en mange que le dimanche. Il faut bien manger, car il est important le petit déjeuner, le petit déjeuner, le petit déjeuner.
Mon Mangez-Vrai, première radio 100% dédiée à l'alimentation.
C'était le groupe Breakfast sur Mangez-Vrai, première plateforme audio dédiée à l'alimentation, mais pas que. L'invitée de On vous en parle ce matin, Véronique Duguay, elle est à la tête de l'atelier de goûtologie, histoire d'apprendre de façon ludique à centrer nos sens et notre ressenti au cœur de la dégustation. Cette posture permet de mieux manger, de mieux choisir ses aliments, de se faire davantage plaisir en consommant moins tout en vivant les sensations des beaux souvenirs de notre enfance.
On vous en parle, Henri Salamon.
Alors depuis plus de 25 ans, Véronique Duguay est chef d'entreprise dans l'artisanat des flaveurs. Des flaveurs pour bonjour Véronique.
Bonjour Henri.
Alors justement je parlais des flaveurs, c'est quoi les flaveurs?
Alors les flaveurs c'est l'ensemble des arômes que tu as par la voie rétro-olfactive et des saveurs qu'on a sur la langue, acide, amer, sucré, salé et umami. Donc l'ensemble des perceptions, c'est un mot anglais et... ça reprend donc les flaveurs.
Les flaveurs. Alors, un an seulement après votre première installation en boulangerie-pâtisserie, c'était à Laval, votre mari, maître artisan, devient allergique à la farine et perd totalement le goût et de l'odorat. Vous êtes alors sans formation préalable à l'analyse du goût et sans être derrière les fourneaux, vous vous retrouvez alors responsable de vos produits. Une sacrée aventure finalement qui commençait à s'ouvrir à vous là.
Oui, effectivement, à l'époque je ne m'attendais pas du tout à ce que ça m'embarque dans l'histoire où je suis aujourd'hui. Donc pour revenir un petit peu, donc Jacques, maître artisan en boulangerie, perd son sens de l'odorat et du goût et je deviens maître goût de cette entreprise. Alors là, au départ, j'étais voilà, c'était un petit peu compliqué, mais en même temps je disais c'est bon, oh, j'ai de la chance quand même, voilà, et je détectais les défauts, les excès ou les équilibre, sans formation. Et voilà, tout se passait à peu près bien, puis j'ai commencé à avoir peur, à pas être très très sûre de moi. Je me disais, mais c'est quoi au final le goût? Alors mes clients, mais moi j'en sais rien au final, c'est bon pour le chef qui cuisine, moi je dis que c'est bon, et le client, en fait, comment je peux faire que ça soit juste? Donc je me suis formée, là, à l'analyse sensorielle, pour être juste et comprendre comment fonctionne le sens du goût.
Donc est née goûtologie.
Goûtologie est née un tout petit peu plus tard. Mmh. Parce qu'en fait, ces connaissances, je les gardais pour moi. Et je m'en suis servie. Nous avons quitté cette boulangerie et nous nous sommes installés en chocolaterie voilà, il y a quelques années déjà.
En 2010. Si mon petit doigt me dit tout, c'est en 2010.
Ça, en 2010. Et là, j'avais des clients qui venaient chercher des chocolats. Je donnais à déguster des chocolats rares, Madagascar, Côte d'Ivoire... Bolivie, et les clients disaient c'est bon. J'ai dit c'est bon, mais ça me rappelait moi des années en arrière. On disait c'est bon. Mais après, j'avais développé en fait l'émotion gustative et j'avais la connaissance. Je me suis dit, eh bien, Véronique, il est temps de transmettre cette connaissance aux clients. Et là, j'ai mis une table le soir dans mon magasin et je faisais venir des clients et je leur apprenais à déguster et à vivre leurs émotions gustatives. Et là est né l'atelier goûtologie il y a plus de 5 ans.
Alors, on le rappelle, hein, donc, c'est en 2010, vous avez repris les rênes d'une chocolaterie artisanale. Alors moi, le nom me parle, la part des anges. Ça, c'est, en principe, c'est pour le vin, la part des anges.
C'est exact. C'est pour, alors, le vin, whisky. Là, ce qui était intéressant dans le nom de la part des anges, c'est quand on rentre dans un laboratoire de chocolat, où le chocolat est complètement fondu, il fait chaud, eh bien, il y a des particules, de molécules qui sont dans l'air. Et ça nous enivre. La même chose, en fait, que dans les caves, où on ouvre la cave, il y a la part des anges qui s'évapore et qui étourdissent, en fait, celui-là qui entre dans la cave. Donc, la part des anges, c'est ça. C'est cette partie de molécules odorantes, vivantes, qui viennent à notre rencontre par l'odorat et qui nous enivre déjà. Avant la dégustation.
Alors, on dit que le chocolat, il y a donc le chocolat que l'on mange comme ça, le chocolat au lait, le chocolat blanc, les produits, disons-le, hein, industriels, et puis il y a les produits issus de, on va dire, de l'éthique.
Oui.
Est-ce qu'il y a une grosse différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre un très bon chocolat aujourd'hui et un chocolat dit industriel?
Alors, on dit qu'il y a deux grandes voies. Il y a deux grandes voies. Il y a la voie on va dire, provenance industrielle, et il y a la filière, ce qu'on appelle la voie, filière des gourmets. Dans la filière industrielle, le chocolat est uniforme. Votre tablette de Milka il y a 15 ans et votre tablette de Milka aujourd'hui, elle a le chocolat au lait, elle a le même goût. Tandis que dans la filière gourmet, on va avoir chaque année, on va avoir une production qui va être différente de par le terroir, de par la météo, de par les hommes et la transformation. Eh bien, ça va être comme dans le vin. On va avoir vraiment des notions et des notes aromatiques qui vont être différentes d'une saison à une autre. Ce qui est aussi important, c'est toute la traçabilité. C'est-à-dire, dans la filière gourmet, on peut savoir, enfin, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on sait exactement de quelle coopérative ça vient et de quel terroir. Donc on a vraiment une éthique et on a aussi des labels, mais les labels ils sont aussi contrôlés. On est sûr que les cacaoculteurs ont leur rétribution, ce qui n'est pas toujours le cas sur certains labels. Voilà, à vous de chercher sur... chercher ce qui est bon et moins bon.
Alors, on peut se faire plaisir avec le chocolat, on sait, hein, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. À quel moment vous avez compris qu'il y avait, par rapport aux consommateurs, qu'il y avait à les former, entre guillemets, à consommer et à goûter et à apprécier le chocolat?
Alors, là, c'est une question très intéressante. Parce que, en tant que boulangère, j'ai été confrontée à plein de clients avec différents comportements, en fait. Parce qu'ils n'allaient pas bien, parce qu'ils voulaient faire plaisir aux autres, pour soi. Et en même temps, j'avais mon équipe de pâtissiers, chocolatiers, qui vraiment donnaient avec leur cœur dans leur connaissance, de leur façon de transformer le produit. Et je me dis que on peut pas être en appétence. Donc l'appétence, c'est l'art de mettre dans la bouche et d'avaler. Mais on ne sait pas pourquoi on va reprendre, même avant d'avoir écouté les notes aromatiques. Et voilà, l'épicurienne que je suis, la gourmette que je suis, on dit, mais mince, quelque part, il faut apprendre. Et ça, dans notre société aujourd'hui, on n'a pas appris, ne serait-ce qu'à l'école, à écouter nos notes aromatiques avec tous nos sens.
Ah, c'est très intéressant. On va y revenir, mais tout d'abord, on va faire une pause musicale. On va écouter une chanson de circonstance, hein, La Femme Chocolat, Olivia Ruiz.
Super,
vous
merci.
Êtes sur Manger Vrai, première radio dédiée à l'alimentation, mais pas que.
Une info, un message, un coup de cœur. Retrouvez Manger Vrai sur Facebook.
Taille-moi les hanches, à la hache, j'ai trop mangé de chocolat. Croque-moi la peau. S'il te plaît, croque-moi les os. S'il le faut, c'est le temps des grandes métamorphoses. Au bout de mes tours, petit sein, si nu pointu, zédo du deux, noisette craque, tu les manges, c'est le temps des grandes. j'ai trop mangé de chocolat.
Manger vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.
C'était Olivia Ruiz sur Manger vrai, première plateforme audio dédiée à l'alimentation et à tous les univers qui s'y rattachent, et notamment celui du chocolat. Ce matin, je suis avec Véronique Duguay. Elle est goûtologue. Voilà un sacré métier qui demande à être expliqué. Alors, on va se poser de suite la question, Véronique. Pour qui un atelier de goûtologie ? Ça s'adresse à qui, finalement ? Aux professionnels ? Aux consommateurs que nous sommes ?
Alors, j'ai envie de vous dire en premier aux consommateurs que nous sommes tous. La nature nous produit des jolies choses. Les hommes transforment avec leur cœur et leur trip des jolies choses. Et nous, eh bien, à nous d'écouter, à nous d'entendre. Donc, c'est à nous aussi de nous positionner face à ces producteurs et de laisser jouer ces notes aromatiques en nous. Voilà pourquoi j'ai créé ce métier. Parler du goût, goûtologie, c'est logie, donc parler l'étude du goût.
Alors ça se passe comment alors, concrètement alors, je vois que vous avez déjà sorti plein de petits chocolats sur la table du studio. On va se régaler. Qu'est-ce que la première chose que vous faites pour réveiller les sens des consommateurs?
Alors, la première chose, c'est le regard, c'est les yeux. Pendant la semaine du goût, j'ai vraiment initié les enfants à la goûtologie, et à cet art. Et du coup, les enfants, je leur disais, mais ouais, on voit du chocolat avec nos yeux, on voit du chocolat. Certes, mais je dis, mais vous êtes sûr que ce n'est pas un morceau de plastique ? Voilà, donc le regard, en fait, l'importance du regard.
C'est important le regard, absolument, oui.
Et il y a un autre phénomène aussi, vous savez, il y a des restaurants où on va dans le noir à déguster, et pour l'avoir expérimenté moi-même.
À l'aveugle.
Et là, il y a des témoignages qui sont surprenants. Ouais, mais j'étais quand même pas sûre de moi, c'était quand même compliqué, la texture. Donc on voit l'importance de la vue dans notre dégustation.
Ça, c'est important.
Première chose. D'ailleurs, on va nous présenter quelque chose. D'un instant, on va dire c'est bon. Ou on va dire oh, ça donne pas envie.
Oui.
Voilà. Rien qu'au regard.
Rien qu'au regard. Est-ce que c'est un atelier ludique ? Parce qu'on pourrait se dire oula, ça va être fastidieux et on va partir sur des sentiers qui, là, elle va me perdre.
Oh, pas du tout. C'est extrêmement ludique et c'est simple. C'est les bases de notre vie qu'on a juste un petit peu oubliées et qu'on réactualise. Et puis, on a aussi peut-être un manque de connaissances sur notre propre fonctionnement. Là, avec effectivement le Covid, on a perdu le sens du goût et se sont rendus compte de la place que ça prenait en fait. Et il y a eu beaucoup d'études de fait, de recherches. Mais voilà, on réhabilite un petit peu ce sens qui était un petit peu normal. Et là... Voilà,
là, oui.
Alors, on s'amuse avant de déguster du chocolat.
Je vois qu'il y a également, vous avez des petites plaquettes et je vois que nous avons une découpe de notre cerveau. C'est important pour vous d'expliquer comment ça se passe dans notre cerveau ?
Oui, c'est plus qu'important. Parce que si on veut savoir comment on fonctionne, eh bien, il faut savoir comment c'est comme un moteur. Si on veut savoir comment fonctionne notre moteur, bah, faut au moins comprendre. Voilà. Et ça nous aide, en fait. Ça nous aide à comprendre l'imbrication de nos modules sensoriels.
Chaque être humain a sa perception des choses. Par exemple, à vous et à moi, si on goûte le même chocolat, comment on va le percevoir, ce chocolat ?
Alors, on va le percevoir par nos sens. Et en fait, c'est là où l'analyse sensorielle, l'œnologie ou la sémantique, les mots, vont nous mettre en accord. Donc, ça va nous permettre, le point commun, c'est qu'on va pouvoir communiquer, raconter ce qu'on vit et le partager. Et écouter aussi.
Voilà, on est sur le partage, l'écoute et l'échange. Ça, c'est important.
C'est hyper important.
Et je pense que quand vous faites des ateliers avec les personnes qui y participent, il y a justement ce partage, cette écoute et cet échange, et que vous apprenez tous les jours, finalement.
Voilà, parce que... Alors, c'est ce qui se passe dans les ateliers, on me dit toujours « Oh, mais c'est vrai, je dis c'est des mots mis bout à bout au départ, et puis à la fin, on dit « Oh, mais je l'ai vraiment vécu, c'est vraiment ça, quoi !» Il se vit des sensations intérieures, un voyage intérieur insoupçonné. Mmh. Et pourtant, on entend les chefs à la télévision. Oh, je suis en train de vivre une émotion gustative. Ok. Mais moi, je vais vous apprendre à vivre vos propres émotions gustatives. Voilà. Et ce qui va permettre de partager ce temps-là, les uns avec les autres, eh bien, c'est les mots, c'est la communication, c'est notre vocabulaire. On va pouvoir partager ce temps précieux à soi.
De cette phrase toute faite, on en comprend tout son sens et on commence à la comprendre. C'est un peu ça.
Oui, c'est ça.
Alors, on arrive en période de fête. Comment ne pas se tromper quand on va aller acheter son chocolat? Alors, je pense qu'il y a les chocolats éthiques, on en a beaucoup parlé, mais il n'y a pas que ça. On peut se faire plaisir en allant chez un chocolatier, dans une grande surface, même on peut se faire plaisir.
Tout à fait.
Alors quelles sont les règles de base à respecter quand on achète son chocolat?
Alors, pour choisir sa tablette de chocolat, il y a plusieurs options. Elles sont toutes bonnes. Mais il y a quelques petites règles, effectivement, à prendre en compte. Dans tout ce qui est filière, on va dire, grande surface, il y a des choses qui sont très bien, que vous allez trouver dans la filière éthique. Et regardez, ce qui va être important, c'est le pourcentage qui est noté, mais sur la face avant. Vous pouvez avoir, par exemple, alors je vous donne un exemple, chocolat Madagascar, mais vous n'avez pas le pourcentage devant. Mmh. Et on va marquer noir, extra noir. Là, vous tournez la tablette et vous regardez sur l'ingrédient quel est le premier ingrédient. Et vous pourrez être surpris que ça ne va pas être de la pâte de cacao. On va avoir du sucre. Par contre, si vous prenez cette même tablette, une tablette où ça va être marqué Madagascar 64%, 70%, 80%, vous tournez votre tablette et en premier, vous allez avoir la pâte de cacao. Donc, la première chose, c'est que sur la tablette, il doit y avoir le pourcentage de cacao. Et ça, déjà, vous êtes dans un bon indice.
Donc, c'est important, la lecture des ingrédients, tout ce qu'il y a derrière.
C'est indispensable. Vous pouvez, alors, dans ça, on a parlé de la filière éthicable, mm-hmm. équitable. Là, je fais un lapsus pour une marque. La filière industrielle, par exemple, vous allez avoir j'ai une amie, là, qui était Noël dernier, qui m'a dit, oh, regarde, à mes petits-enfants, j'ai acheté du chocolat noir de noix. Extra noir. Oh, bah, j'ai dit super, c'est génial. Je prends le packaging, je tourne, et en fait, le packaging était tout noir, et derrière, le premier ingrédient, c'était du sucre. Et je lui ai montré. Donc, l'intérêt vraiment, c'est de regarder l'arrière de vos packagings.
Le chocolat transformé, ça sera ma dernière question, Véronique. Le chocolat transformé, par exemple, on dit que le chocolat, c'est le chocolat noir. Est-ce que le chocolat au lait, le chocolat blanc, le chocolat noisette, est-ce que là, c'est des chocolats où on va les dénaturer?
Alors, ça, c'est une grande question. Les épicuriens vont dire le chocolat noir, c'est du chocolat noir, voilà.
C'est le vrai chocolat,
c'est le point de barre. C'est du vrai chocolat, c'est du cacao, c'est du vrai chocolat, voilà. C'est une école. J'ai un regard un petit peu plus avec un recul parce que pour en avoir vendu beaucoup et vu beaucoup et transformé aussi, le chocolat au lait a une vraie valeur, mais on va le considérer plus comme une confiserie. Voilà, le chocolat blanc, je le considère, alors il ne porte pas le nom de tablette de chocolat d'ailleurs, dans la législation, c'est de la confiserie. Il est clair que si vous voulez vous faire plaisir avec un petit carré de chocolat au lait, mais faites-vous plaisir avec un petit carré de chocolat au lait. Ça va être important. Le chocolat noir reste quand même ce qui va être le plus proche du cacao, des cacaoculteurs et de cette palette aromatique qui est propre, puisque on dit que dans le chocolat, il y a plus de 600 arômes. Le vin en a 300. Donc vous voyez que dans le chocolat noir, eh bien, il y a une palette d'exploration extraordinaire qui pourrait vous faire vivre des choses intimes de l'ordre de l'émotion gustative forte.
Et on aura l'occasion d'en reparler, notamment le chocolat dans la cuisine, parce qu'on peut utiliser le chocolat dans des recettes.
Oui, tout à fait. Et là, ça prend toute sa place.
Et ça sera le thème d'une nouvelle émission justement pour ces fêtes de fin d'année. Merci Véronique d'être passée par notre studio pour nous parler de goûtologie, pour nous parler de chocolat. Et puis, allez, on va vous retrouver prochainement sur l'antenne de Manger Vrai dans N'est pas chocolat qui veut, c'est une chronique. Et là, on va tout apprendre sur le chocolat.
Oh, je vais vous donner beaucoup de clés et avec plaisir de vous retrouver pour vous transmettre ces connaissances. Vraiment.
Nous sommes les seuls à proposer ça.
Manger vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.
Avant d'aborder la troisième et dernière partie, on écoute Stromae avec ce titre Santé, extrait de son dernier album. Et on se retrouve juste après pour parler de volaille et plus particulièrement d'oie avec James Monnier, responsable du groupement de producteurs d'oie d'Anjou IGP et Label Rouge.
On vous en parle, Henri Salamon.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Bonne manière. Pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez, mieux vaut ne pas si frottez. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin-pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Cœur aux célébrations.
Une info, un message, un coup de cœur. Retrouvez Manger Vrai sur Facebook.
Passer au bio, pour un agriculteur, est compliqué. Cela représente une période difficile de transition qui dure 3 ans. 3 années, pendant lesquelles il cultive sa terre en respectant les règles contraignantes du bio, mais ne perçoit pas les bénéfices de son travail. Chez BioDemain, nous accompagnons les agriculteurs dans leur transition vers une agriculture plus durable. Nous facilitons la vie de nos agriculteurs et les rémunérons justement durant leur passage au bio. Un salaire digne pour un travail de qualité. En choisissant BioDemain, vous vous engagez aux côtés des agriculteurs qui œuvrent pour un monde meilleur. En plus d'être bon pour vous, acheter ces produits aide les agriculteurs à préserver l'environnement, à se rémunérer équitablement, ainsi qu'à protéger leur santé et celle des habitants en proximité. Ensemble, accompagnons les agriculteurs qui s'engagent pour l'homme et la nature.
On vous en parle, Henri Salamon.
C'est notre premier rendez-vous avec la chronique Conso. Cette semaine, nous allons vous parler de sel en cuisine avec le chef Dan Bessoudouo du restaurant étoilé Dan B dans les Bouches-du-Rhône.
Le sel de la vie, la minute découverte du sel.
Dan Bessoudouo, bonjour. Vous êtes chef du restaurant étoilé Dan B à Ventabrin, dans les Bouches-du-Rhône. Depuis toujours, la place du sel en cuisine est fondamentale, aussi bien pour les chefs que pour les gourmets. Pourquoi ?
Le sel, c'est le muscle du goût. Il est très important pour sublimer le produit, déjà dans toute sa simplicité. Il faut aussi rappeler que dans la cuisine, il y a deux choses très importantes. La maîtrise des assaisonnements et la maîtrise de la cuisson. Et l'assaisonnement ne peut se défaire du sel. Donc le sel devient notre principal allié et nous offre le goût qu'on souhaite, en fonction du palais de chacun, bien sûr.
Et alors Dan, en quoi le sel sublime-t-il les produits ?
Alors le sel, pour moi, sublime le produit parce qu'il est un exhausteur du goût. Assaisonner avec justesse un produit dans sa préparation, accompagné d'une vinaigrette ou d'une marinade ou tout simplement une cuisson, va permettre de donner le vrai goût du produit qu'on tient à présenter. Alors vous me direz, et pourtant, je peux très bien manger une tomate ramassée, cueillie du pied, et je croque dedans, je n'ai pas besoin de sel. Mais bien, si on mange cette même tomate et si on va ajouter la petite pincée de sel qu'il faut, bien là, ça devient totalement explosif en bouche. Ça devient même, je dirais, émotionnel, puisqu'on ressent encore plus ce goût.
Fleur de sel, gros sel, sel fin, découvrez les secrets du sel avec La Baleine, la marque de sel des Français depuis 1934. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site labaleine.fr.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Mangez vrai. Terroir et gastronomie.
Vous voyez, c'est pas trop tard pour déjeuner.
L'autre façon de découvrir le territoire sur Mangez vrai.
C'est délicieux, délicieux.
Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et bon nombre d'entre nous pensons déjà réveillon. Et qui dit réveillon dit volaille. Alors, pourquoi ne pas choisir cette année comme volaille loi fermière d'Anjou ? Pour nous éclairer, écoutons James Mounier, responsable du groupement de producteurs d'oies d'Anjou IGP et Label Rouge, un produit savoureux et élevé en moyenne 222 jours avec une alimentation 100% végétale et issue en partie de l'exploitation. On écoute James Mounier.
Alors pour vous expliquer la production de l'oie, l'oie arrive dans les exploitations à un jour, elle pèse 100 grammes. Elle va avoir une croissance très très rapide pendant les 8 premières semaines de sa vie, puisqu'elle va passer de 100 grammes à 4 kilos. Donc nous, on a besoin de la nourrir avec des fourrages de façon très abondante, puisque l'oie, même si c'est une volaille, a la particularité d'abord d'être un herbivore et d'être capable de digérer les fourrages qui sont produits en Anjou. Et c'est pour ça qu'on a la douceur angevine, l'abondance. Après, nous, on élève l'oie dans une phase de croissance lente, à partir de 8 semaines, jusqu'à la période de fin octobre, où là, on va entrer dans ce que nous, on appelle une période de finition, où l'oie va naturellement s'engraisser. Et la particularité de cet herbivore granivore, qui est l'oie d'Anjou, c'est de d'abord consommer pendant toute sa vie des fourrages produits sur l'exploitation. Pour vous donner une idée, 2500 oies sur une exploitation, ça va à peu près grignoter la production fourragère de plus d'une vingtaine d'hectares, dont la moitié en culture de maïs, où l'oie va les consommer sur pied pour finaliser sa croissance. Et en période d'octobre, novembre, lorsque les froids arrivent et les jours décroissent, l'oie, naturellement, dans sa nature, s'engraisse et dépose du gras pour des réserves corporelles qui sont habituellement nécessaires à la migration. Et donc c'est là où on a basé notre stratégie de l'engraissement de l'oie d'Anjou, qui se fait naturellement par l'animal, avec un aliment beaucoup plus riche en céréales et en protéines, qui permet donc la première étape de déposer le gras, et donc derrière de finaliser l'arrivée du muscle, qui est la chair de l'oie d'Anjou et qui donne sa tendreté. L'oie a d'abord une croissance squelettique et nerveuse. Et la troisième étape dans les tissus, c'est d'abord l'arrivée du dépôt adipeux, du gras. Et ce n'est qu'après que le muscle arrive, puisque dans la nature, l'oie fait des réserves de graisse pour la notion de migration et transforme ses graisses lors de la migration en muscles qui lui donnent la force de se déplacer en fonction des deux saisons de l'année, soit du nord au sud et vice-versa. Alors l'indicateur principal, c'est la noix graisseuse. Alors il faut regarder, c'est sous son aile. Vous allez trouver une jolie boule, mais qui peut atteindre une demi-balle de ping-pong ou une balle de tennis, qui est une grosse boule de graisse. Et plus cette boule de graisse est importante et dure, plus vous pouvez vous dire que l'oie a déjà atteint un stade de dépôt de muscles et que là, votre viande sera tendre.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn.
C'était Michael Bubble avec ce titre Feeling Good. Vous êtes sur Manger Vrai, première et unique plateforme audio dédiée à l'alimentation et aux divers univers qui s'y rattachent.
Nous sommes les seuls à proposer ça.
Manger Vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.
Retrouvons pour terminer ce magazine l'ami Alain Moreno et cette semaine il va être question de cake. En effet, ce dernier est en compagnie de Javier Roberto, cofondateur de Luma's Cake. Il est question de rêve, de gâteau, de cake design ou comment transformer un gâteau en œuvre d'art. On écoute.
Alors, déjà, première question, parce que bon, Javier, c'est un nom scandinave, c'est ça, non? Tu es suédois, tu es norvégien?
Non, allemand.
C'est pas bien fait.
Non, on vient tous les deux du Venezuela.
Ouais.
Et ça fait déjà un peu plus de 15 ans qu'on habite ici en France, même si le sang est toujours là. Mmh. Mais on, en fait, on est parti du Venezuela pour compléter, finir nos études ici.
Ouais.
donc moi dans le marketing et ma femme dans l'ingénierie. Et c'est à la naissance de notre premier enfant, Lucas, il y a 10 ans, qu'on s'est mis à faire des gâteaux. Et on a changé notre... On a radicalement changé notre vie, en fait.
On revient un peu au début, Venezuela.
Allez.
Comment tu peux expliquer que tu as eu envie de faire ça? Est-ce qu'il y a eu une rencontre inattendue? Est-ce que dans ta famille, ta maman faisait des gâteaux? Est-ce que la maman... C'était quoi le déclic? Alors, qu'est-ce qui était, ça a été une révélation? Est-ce que dans le ventre de ta maman, tu faisais déjà des gâteaux?
Non, vraiment pas. En fait, à l'origine, je suis peintre. J'ai fait de la peinture depuis tout petit. Donc, je fais de la peinture à l'huile depuis que j'ai 7 ans. Et donc, c'est vraiment une passion de toute la vie. Et la passion pour les gâteaux est arrivée beaucoup plus tard. Donc, comme je disais, quand on a eu notre premier enfant. Mm-hmm. Mais Nora, elle adore tout ce qui est sucré, les desserts, faire la cuisine, etc. Et du coup, nous, quand on a eu notre enfant ici à Paris, au Venezuela, on a l'habitude d'avoir des très gros gâteaux parce qu'on est très influencé par la culture américaine.
D'accord.
Et donc, ça, oui, la fête et les gros gâteaux, ça, on le connaît depuis tout petit. Mm-hmm. Et quand on arrive ici en France, il y a 10 ans, ça n'existait pas du tout. Donc ici, c'est vraiment la pâtisserie traditionnelle.
Mm-hmm. Tout à fait.
Pas ce style de gâteaux. Mm-hmm. Et du coup, on s'est dit, on va les faire. C'est nous qui allons les faire. Et du coup, c'est là la passion de ma femme pour la pâtisserie mm-hmm. et moi, la passion pour la peinture. On a uni les deux choses. Et on a donné naissance à l'Humascape, parce qu'on est spécialiste, si tu regardes notre site, sur les gâteaux, peint à la main.
D'accord. Alors, ce qui est assez original, quand même, c'est que j'ai l'impression que c'est souvent une inspiration, quand même, parce que la première chose que j'avais découvert, moi, quand je t'ai contacté, quand j'ai parlé avec Noralide, c'est que il y avait l'impression qu'il y avait pas mal de personnages de Disney.
Oui, là, c'est plutôt une passion à moi. En fait, mm-hmm. j'adore tout ce qui est l'univers de Disney depuis tout petit, mm-hmm. et avec tous les films... je ne peux même pas dire que c'est grâce aux enfants, hein, c'est vraiment moi les grands enfants. Là. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des gâteaux de Disney et je m'y suis retrouvé, j'ai trouvé mon univers dans ça. En fait.
Sur le principe, faire un gâteau, on pourrait dire que ce n'est pas compliqué. Quoi. Tu mets de la farine, tu mets des œufs, tu mets pas mal de trucs. C'est compliqué comme manière de faire ce type de choses, de préparer ce type de choses.
Justement, là, ça devient un petit peu plus professionnel. Parce mm-hmm. que si tu regardes aussi, globalement, c'est des pièces montées qui montent aussi très haut.
Ça peut aller ça peut être de 40 cm à 1,50 m, 2 mètres.
Exactement. Nous, on fait tout. En vrai, on fait des petits gâteaux qui sont des 10 cm jusqu'à les plus hauts qu'on a fait, c'est 1,60
m. C'est assez fascinant. C'est compliqué à faire. Ça prend du temps. C'est compliqué à faire.
Oui, ça, évidemment, ça prend du temps. Ça dépend aussi des exigences des clients. Parce qu'il mm-hmm. a des idées plus ou moins folles. Mais oui, ça prend plusieurs heures sur tout ce qui est la cuisson et le montage. Et ça prend aussi plusieurs heures sur tout ce qui est la peinture et la décoration. Par exemple, un gâteau normal, on va dire, gâteau mm-hmm. moyen, on va passer 7 heures minimum dessus.
Bon, alors, soyons concrets, on en finit là-dessus. Donc déjà, par plaisir et pas mieux au monde, je vais te demander comment est-ce qu'on fait pour te retrouver.
Alors, il suffit d'aller sur Instagram, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous tapez Lumascake, L-U-M-A-S, et cake comme au gâteau, et vous allez trouver notre compte. Et on a aussi le site internet, lumascake.fr.
Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour les jours, les semaines et les mois à venir?
Oh là là, je pense que c'est la même chose pour tout le monde, qu'on a un petit peu plus de vision sur où l'on va. C'est pas évident. Et pour essayer d'organiser au mieux. Et après, tant qu'il y a la santé, il y a tout. Donc, continue à avoir de bonnes santé. Après, le travail, ça vient.
Dernière question toute bête. Je suis sûr que tu vas préparer un gâteau spécial pour 2024, puisqu'il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris.
Ah, je n'ai pas prévu, mais c'est une très bonne idée.
Merci à toi, puis plein de bonnes choses.
Non, merci à toi pour l'invitation. Et madame, passe le bonjour aussi.
Plein de bonnes choses à toi, merci en tout cas, merci à toi. Au revoir.
Également, et merci.
Mangez vrai, parce que l'alimentation fait débat.
Se rappelle la grande opération menée par Mangez vrai, hashtag obésité nos fatalités, a besoin de vous. Cette tournée nationale et citoyenne débutera au mois d'avril 2022 avec le soutien notamment de la Fondation Paul Bocuse et comme marraine Karine Tessandier. Une tournée nationale qui prendra également les couleurs du Tour de France avec notre partenaire Frigone et ce sur 9 étapes. Toutes les informations utiles sont à retrouver sur notre site www.manger-vrai.net. Une fois sur la page d'accueil, c'est simple, vous cliquez sur la bannière hashtag obésité nos fatalités. On vous en parle, votre rendez-vous avec l'actualité est terminé pour cette semaine. Je vous retrouve bien sûr pour un prochain numéro et d'ici là, profitez bien de votre week-end. Un magazine à réécouter sur l'ensemble des plateformes de podcast, bien sûr. Et puis, allez, ne soyez pas timide. Vous avez des questions, des propositions de sujets? Notre page Facebook Mangez Vrai est à votre entière disposition. Et puis, merci de nous être fidèles.
Mangez Vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.